Mesdames, Messieurs, nous allons donc continuer notre examen des modifications qui se sont produites dans notre perception de la Vesta au cours des 20 dernières années. Alors, pour rappeler très rapidement et en gros ce à quoi nous avions conclu lors de la dernière leçon, c'est que progressivement, entre l'année 1998 et l'année 2004, avec le livre d'Alberto Cantera, une nouvelle image de la Vesta s'est imposée. Ce n'est plus celle de l'assemblage hasardeux d'un livre sacré, entre guillemets, en cinq livres, mais ce que nous avons, c'est l'assemblage concerté de deux liturgies. Nous allons appeler la première le récitatif de la liturgie longue, c'est le Yasna Visprat Videvdat, avec ses additions facultatives, et d'autre part, le recueil des liturgies brèves, c'est-à-dire une anthologie de rites particuliers. Les Yasht sont les hymnes aux dieux autres qu'Ahura Mazda, et le Korda Avesta est un ensemble de liturgies privées ou saisonnières. Bien, donc, l'assemblage concerté de deux liturgies. Cette nouvelle image va, à partir de, une fois qu'elle s'est imposée en 2004, va avoir plusieurs conséquences, qui vont d'ailleurs se précipiter. La première, elle est pratique, et j'aimerais tout de même m'en expliquer, ce n'est peut-être pas passionnant, mais parfois c'est une façon de s'excuser de certaines choses. Depuis que je fais cours, ce ne date pas de ces années, je suis toujours très ennuyé lorsqu'on me demande ce qu'il faut lire au sujet de la matière que j'enseigne, tout simplement parce qu'il n'y a rien. N'est-ce pas ? C'est une situation un peu embarrassante pour moi ou pour tous mes collègues, bien sûr, mais vous allez comprendre pourquoi. Imaginez la situation de départ telle qu'elle se présente, n'est-ce pas ? C'est aux alentours de l'an 1900 que nos grands ouvrages de référence se sont constitués. En 1896, l'édition de l'Avesta par Geltner est achevée. En 1904 paraît le dictionnaire de Bartholomé, l'Altiranisches Wörterbuch. Mais la même année que l'édition de Geltner aussi paraît ce qui restera la seule grammaire véritable, pendant longtemps, la seule grammaire véritablement détaillée de l'avestique, c'est dans le Grundriss der Iranischen Philologie, sous la plume de Bartholomé. Donc, à ce moment-là, une science paraît constituée. Elle est en possession de ses grands ouvrages de référence. Il est normal que cette situation n'évolue plus pendant quelques années. Le travail est fait, en quelque sorte. Seulement, la théorie d'Andreas, que je vous ai exposée il y a 15 jours, a modifié les choses. Avec la théorie d'Andreas, ce qui paraît, les choses apparaissent de la manière suivante. C'est tout à fait logique, hein, vous pouvez le comprendre. L'édition de Geltner, Geltner a édité de la meilleure façon possible ce que l'on trouvait dans les manuscrits que nous possédons. Donc, la version vocalisée de nos manuscrits. C'est cela que transmet Geltner. Bartholomé de même, hein, il a fait le catalogue lexical de ce que nous trouvions dans les manuscrits vocalisés. Ce qu'il conviendrait de faire, c'est le programme d'Émile Benveniste en 1935, que je vous ai conseillé de lire l'introduction, elle est très éclairante sur l'esprit de l'époque, imprégnée de la théorie d'Andreas. Sur son introduction est très claire à cet égard. La tâche qui lui paraît s'imposer à ce moment-là, c'est d'écrire une grammaire critique, critique est important, de l'avestique. La grammaire critique, il entend par là une grammaire qui tienne compte, qui décrive la langue originale, donc qui doit tenir compte des fausses vocalisations. Ce ne sont pas nos manuscrits vocalisés qui doivent être à la base de cette grammaire, c'est c'est le... C'est la réflexion théorique sur un texte qui a d'abord été noté de manière consonantique avant d'être très approximativement vocalisé. Bon, c'est cette tâche, et Benveniste, d'ailleurs, qui enseigne à ce moment-là à l'École pratique des hautes études, confiera à un étudiant, qui est Jacques Duchesne-Guimain, un volume, une étude sur la composition avestique, qui effectivement Duchesne-Guimain publiera en 1936 les composés de l'Avesta. Ces deux livres, Les infinitifs avestiques de Benveniste en 1935, Les composés de l'Avesta de Jacques Duchesne-Guimain en 1936, sont évidemment inspirés par la théorie d'Andreas. En réalité, ce programme consiste à établir une grammaire avestique détaillée et précise sur le modèle de celle qui est en train très progressivement d'apparaître pour le sanskrit, l'Altindische Grammatik, dont les premiers volumes étaient apparus, oui, comme Geltner et le Grundriss, en 1896. 1896, on a une phonétique du vieil indien par Wackernagel. La même année apparaît un volume sur la morphologie, la déclinaison du vieil indien. Mais il faudra attendre 1929 pour avoir le volume sur les composés. C'est ce volume que Jacques Duchesne-Guimain va tenter de transposer du côté avestique et paraîtra encore plus tard, bien plus tard d'ailleurs, en 1953, Wackernagel est mort, c'est Albert de Brunner, son successeur, qui en est l'auteur, un gros volume sur la dérivation. Voyez, ce qui manque, bien entendu, à cette grammaire, c'est le Das Verbum, comme je vous le disais. Et c'est ce Das Verbum qui fait partie à l'origine du programme de Karl Hoffmann. Bien, donc, Duchesne-Guimain, bien sûr le projet, de poursuivre le travail et de sans doute s'occuper d'une dérivation nominale sur le modèle de l'Indische Grammatik après les composés. Il faut voir qu'à ce moment-là, les premiers travaux de Karl Hoffmann, donc une fois la théorie d'Andreas réfutée, la perception change, la sensibilité au problème change. Et Karl Hoffmann aperçoit très bien que ce qui est en cause dans nos livres de référence sur l'avestique, bon, ce n'est certes pas l'édition de Gettner, elle est considérée comme indépassable à cette époque, mais ce n'est pas non plus la grammaire, puisque dès lors que cette grammaire ne doit plus être, comme disait Benveniste, critique, hein, à quoi ça rime encore tellement d'écrire une grammaire avestique ? Il suffirait, pense Karl Hoffmann, il suffirait de produire un petit volume, c'est pas, qui tienne compte des particularités de l'avestique par rapport au vieil indien. Mais Karl Hoffmann était très clair là-dessus, c'est pas, la meilleure grammaire avestique qui existe, disait-il, c'est l'Altindische Grammatik. On peut la consulter en transposant de manière très, très simple, n'est-ce pas ? On peut la consulter pour résoudre les problèmes grammaticaux-avestiques. Ce programme-là, Hoffmann finira par l'appliquer, puisque je crois que vous avez ça dans votre exemplier, du moins des dernières leçons. Bah, il produira en collaboration avec son ancien élève, Bernhard Forstmann, en 1996, une Avestische Laut- und Flexionslehre, c'est-à-dire un petit volume de phonétique et de déclinaison avestique où les faits grammaticaux décrits dans l'Altindische Grammatik sont présentés du point de vue avestique. Bien, alors cela aura pour cette adaptation du programme, hein, du programme de recherche dans le cadre général de nos connaissances de l'iranien ancien, aura une conséquence directe sur ma personne. Mais c'est que Duchesne-Guimain m'avait proposé, à la fin des années 60, de consacrer mon doctorat à la dérivation nominale. À la dérivation nominale, il pensait qu'il ne le ferait plus. Hein. Donc, était censé, dans son esprit, faire un volume de dérivation nominale qui prendrait la suite de ses composés, quoique, bien sûr, j'aurais été, dans cette étude, parfaitement libéré de la théorie d'Andreas. Or, lorsque j'arrive à Erlangen auprès de Karl Hoffmann en 1969, il me dit « ne faites pas ça, hein, ne faites pas ça, c'est tout à fait inutile, c'est pas cela qu'il faut faire maintenant ». Mais pour ne pas contrarier non plus Duchesne d'Hymen, il me dit « faites plutôt un travail approfondi sur le premier suffixe dont il faille tenir compte, c'est-à-dire le suffixe zéro. Les noms qui n'ont pas de suffixe, ou plutôt en ont un, hein, parce qu'on peut leur donner un suffixe secondaire, ce qui serait impossible s'ils n'étaient considérés comme non suffixés. C'est pour cela qu'on préfère parler de suffixe zéro, c'est-à-dire les noms racines. Et j'ai consacré ainsi ma thèse aux non-racines de l'Avesta, j'ai pu constater effectivement que l'essence même d'un travail de ce type était d'ordre lexical. Il s'agit de réinterpréter du point de vue lexical tout simplement tous les mots de Bartholomée. C'est donc bien le dictionnaire, c'est pas, qui présentait la première urgence de réadaptation. Plus tard, il est vrai, j'ai fait un das verbum, hein, plutôt le verbe avestique. Mais là, c'est une autre question. N'oublions pas que le Das Verbum n'est jamais paru. Il n'y a pas de volume consacré au verbe dans l'Altindische Grammatik. Donc, à ce moment-là, la tâche était évidemment intéressante de faire le travail pour le côté avestique propre, en attendant le jour peut-être très virtuel où un volume sur le verbe apparaîtrait. Donc, mais en tout cas, il apparaît à ce moment-là que tâche urgente, c'est refaire le dictionnaire de Bartholomée. La nouvelle perception que nous nous faisons de l'Avesta, de liturgie, va changer à nouveau la perspective. En réalité, en 2004 encore certainement, l'édition de l'Avesta par Geltner est considérée comme définitive. Elle est considérée comme définitive pour deux raisons. Une raison qualitative. Une raison qualitative, elle est très bonne. Elle passe pour être très bonne. On ne peut pas envisager de modifier radicalement le texte de l'Avesta par rapport à ce que donne Geltner. Les seuls problèmes qui se posent sont souvent des problèmes de désordre orthographique. Donc, selon une expression que j'ai utilisée à ce moment-là, j'ai dit qu'il fallait toiletter Geltner. Je vais employer ce mot-là, parce que simplement introduire dans le texte de Geltner un certain nombre de petites corrections qui étaient apparues s'imposer au fil du temps. Donc, un toilettage de Geltner, c'était le seul travail qui paraissait s'imposer. L'autre aspect est un aspect pratique. L'autre raison pour laquelle l'édition est définitive est essentiellement pratique. La plupart du matériel manuscrit, il paraissait absolument utopique de réunir à nouveau le matériel manuscrit que Geltner avait pu consulter. La plupart du temps, parce que les manuscrits, surtout les plus importants, consultés par Geltner, avaient disparu. Il faut voir les conditions de travail. Hein. Le transfert des manuscrits en Europe est organisé par le consulat allemand à Bombay. Pas les familles sacerdotales zoroastriennes acceptent la consultation, acceptent d'envoyer leurs manuscrits en Allemagne pour l'édition de Geltner. Le transfert est organisé. Une fois le travail accompli, Geltner renvoie les manuscrits et très souvent les manuscrits, après cela, nous perdons leurs traces. Les plus importants. Les seuls manuscrits importants qui se trouvent dans les bibliothèques européennes sont ceux de Copenhague. Les manuscrits de Paris sont exécrables. Bon, ils sont intéressants, mais ils sont exécrables. Les manuscrits de Londres ou d'Oxford ne sont pas non plus particulièrement importants. Bref, en dehors des manuscrits de Copenhague, nous sommes fort dépourvus du matériel de base. Or, justement, en 1989, nous revoici, en 1989, un fait intéressant se produit. La dernière étudiante, au fond, de Karl Hoffmann, Almuth Hinze, que vous avez déjà venu faire une conférence ici, redécouvre le manuscrit F1 dans l'armoire d'une bibliothèque de Bombay. Le manuscrit F1, c'est le manuscrit le plus important, le seul, mais c'est le manuscrit de base, hein, celui qui nous donne les leçons les plus importantes, dont tous les autres aussi, à une seule exception près, sont des copies pour le livre des Yashts. C'est donc un manuscrit essentiel qui réapparaît. Et en examinant ce manuscrit, on s'aperçoit que Geltner a vraiment travaillé très vite. Vraiment travaillé très vite, car ce qui se trouve dans ce manuscrit et les leçons qu'en donne Geltner, c'est avec une certaine approximation. Bon, on peut comprendre qu'il ait travaillé très vite, hein, sinon nous n'aurions pas eu en quelques années et peut-être jamais une véritable édition de l'Avesta. Mais en tout cas, ça attire l'attention sur les défauts de Geltner et aussi ça incite peut-être à rechercher à nouveau les manuscrits. Et depuis lors, comme vous le savez, vous avez entendu ces conférences, Alberto Quintera s'y est consacré dans une certaine mesure. Il a retrouvé beaucoup de manuscrits que l'on croyait perdus. Il en a trouvé aussi de nouveaux, très importants. Et donc, refaire l'édition de Geltner paraît aujourd'hui souhaitable avant toute autre chose, car on ne pourra bien sûr refaire un dictionnaire qu'une fois l'édition achevée. Et il y a une raison théorique, pas seulement pratique, à ce qu'on la refasse, c'est qu'il apparaît, surtout depuis 2004 et le livre d'Alberto Quintera, que si l'Avesta que nous possédons est avant tout l'aboutissement dans des manuscrits récents de deux liturgies anciennes, Geltner a fait un mauvais choix. Il faut savoir qu'il y a deux types de manuscrits avestiques par leur contenu. Il y a ce que l'on appelle les manuscrits Pehlevi. Savoir, ces termes de définition de la typologie des manuscrits sont un peu elliptiques, et je m'explique. Ce sont des manuscrits qui donnent le texte avestique avec la traduction Pehlevi. On peut donc imaginer que ce sont les lointaines copies de l'Avesta sassanide, qui comportait une traduction Pehlevi. Bien. D'autre part, il existe une autre catégorie de manuscrits qu'on appelle les manuscrits sadés, ce qui veut dire pur. Cela signifie que le texte avestique est isolé. Il ne donne que le texte avestique, pas la traduction Pehlevi. Donc on voit bien que ces manuscrits correspondent à deux motivations différentes. Les manuscrits Pehlevi ambitionnent de faire comprendre le texte, de nous dire via la traduction Pehlevi, voilà ce que le texte avestique signifie. Tandis que les manuscrits sadés sont des manuscrits pratiques, n'est-ce pas ? Ce sont des manuscrits dont les prêtres vont se servir pour se rafraîchir la mémoire, dont ils vont se servir lorsqu'ils enseignent le texte à des étudiants. Ce sont des manuscrits qui visent à assurer la qualité de la récitation liturgique qui se fait sans livre. Bon. Donc, des manuscrits différents, et aujourd'hui, on les appelle d'une manière beaucoup plus claire et beaucoup plus analytique. Alberto Quintera a proposé d'appeler les manuscrits Pehlevi les manuscrits exégétiques, parce qu'ils donnent une exégèse en moyen perse du texte, et d'appeler les manuscrits sadés les manuscrits liturgiques. Donc, les manuscrits qui visent avant tout l'utilisation lors du culte. Or, si nous pensons comme... C'est encore le schéma de Hoffmann, comme c'est le schéma de Hoffmann en 1989, que les manuscrits que nous possédons via les Stammhandschriften dérivent directement d'un archétype sassanide. Normalement, il faut donner l'avantage aux manuscrits exégétiques. Hein. Eux apparaissent comme les descendants directs hein, de cet Avesta sassanide qui comportait la traduction Pehlevi. C'est ce qu'a fait Geltner. Et si Hoffmann s'était un jour attaché à faire une nouvelle édition de l'Avesta, ben, il l'eût fait de même. Et c'est d'ailleurs parce qu'il l'eût fait de même qu'il ne l'a pas fait, puisque ça paraissait inutile, n'est-ce pas ? Geltner a donné l'avantage aux manuscrits exégétiques, alors que les manuscrits qui traduisent le plus fidèlement les deux vieilles liturgies qui nous sont parvenues indépendamment de l'archétype sassanide, ce sont évidemment les manuscrits liturgiques. Et cela, Geltner les a négligés, n'est-ce pas ? Donc il y a une raison aussi véritablement théorique de reprendre l'édition de Geltner. Alors je voudrais ici aussi introduire une petite réflexion, c'est la dernière au sujet de cette modification des urgences. Refaire une édition de Geltner, c'est aussi une tâche qui s'impose parce que une vieille question n'avait jamais été résolue. Qu'est-ce que nous éditons ? Qu'est-ce que c'est que ce texte que nous éditons ? Il est très clair que si nous lisons, si nous examinons les décisions d'édition de Geltner et si nous consultons aussi les quelques corrections que Bartholomé dans son dictionnaire y fait, eh bien, nous avons très largement un texte théorique. Théorique pourquoi ? Eh bien, parce qu'il s'agit très empiriquement d'éditer la forme qui est la plus semblable au mot sanskrit équivalent. N'est-ce pas ? Ben oui, c'est assez normal, puisque c'est la comparaison avec le sanskrit, c'est la transposition en sanskrit qui nous a permis de comprendre l'avestique. Alors, plus le mot ressemble à ce qu'il est en sanskrit, plus la leçon paraît correcte. Mais cela signifie qu'il y a un travail de restitution théorique, n'est-ce pas, qui est à la base de l'Avesta de Geltner. Cela, Hoffmann l'avait très bien compris. Il avait très bien compris. Et alors, l'insistance qu'il avait mise sur le fait que l'alphabet avestique traduisait l'élocution liturgique de l'époque sassanide, le fait aussi, bien sûr, que tous nos manuscrits étaient les descendants de l'archétype sassanide, l'avait incité, lui avait suggéré de proposer comme programme, n'est-ce pas, d'éditer ce qui figurait le plus vraisemblablement dans l'archétype sassanide. C'est aussi une restitution, bien sûr. Entre l'archétype sassanide postulé par Hoffmann et nos plus vieux manuscrits, il y a tout de même un millénaire. Mais étant donné que, selon Hoffmann, la tradition est purement graphique, la graphie doit reproduire à peu près ce qui se trouve l'élocution liturgique de l'époque sassanide. Donc, l'ambition de reproduire ce qui était certainement plus ou moins le texte sassanide ne paraissait pas hors de portée. Désormais, nous serons beaucoup plus modestes et je crois qu'Alberto Cantera, qui je pense fera un jour, à moyen terme en tout cas, une nouvelle édition de l'Avesta, c'est tout simplement, puisque l'élocution liturgique a continué à évoluer, d'éditer le texte qui correspond à ce qu'il nous paraît, bien sûr, selon nos analyses, à la plus ancienne élocution graphiquement attestée des manuscrits iraniens. Il vous a exposé ça dans une conférence, il vous a, montré quelles étaient les différences d'élocution que les manuscrits nous permettaient de constater. Bien, si nous avons un manuscrit iranien, mais le plus vieux, mais 1323, eh bien, c'est peut-être la seule ambition légitime que nous puissions avoir, c'est tenter de donner une image du texte qui correspond de plus ou moins à ce qu'était la récitation iranienne de l'Avesta au début du deuxième millénaire de notre ère, et qui, il faut bien savoir, ne devait pas être terriblement différente de l'élocution de l'époque sassanide. Elle avait certainement évolué, elle n'était plus la même, mais les différences ne devaient plus être considérables. Voilà pour le fait pratique. Donc là, nous sommes ici depuis 2004. Alberto Cantera a beaucoup travaillé à la recherche des manuscrits, a tenté de fixer un but réaliste à une nouvelle édition de l'Avesta, et on peut espérer que les prochaines années verront une avancée dans le domaine de nos tâches pratiques. Alors, ça, c'était la première conséquence de notre nouvelle image de l'Avesta. Il y a une deuxième conséquence, il y en a quatre en réalité, jusqu'à présent. Et nous allons les examiner, si vous le voulez bien, l'une après l'autre. Une fois la nouvelle image de l'Avesta admise, il apparaît clairement que si cette liturgie est ancienne, si c'est une liturgie ancienne et concertée, bien, elle doit avoir un sens. Elle doit avoir un sens. Si l'Avesta n'est pas, je vais citer Antoine Meillet, hein, disait, bah, l'Avesta disait, il parlait de l'Avesta récent, vous savez, l'Avesta récent, disait Meillet en 1917, c'est une série de fragments de tailles diverses, pour la plupart très menus et juxtaposés sans ordre. Bien, et bien entendu, si l'Avesta, c'est cela, il n'a pas de sens. Pas. On n'a jamais, depuis les origines de nos études, chercher à déterminer quel était le sens du yasna. Hein. Je prends la liturgie longue, n'est-ce pas, les yashts, nous verrons que le problème se pose de façon un peu différente. Mais si nous prenons le récitatif, le cœur du récitatif de la liturgie longue, le yasna, on n'a jamais cherché à établir le sens qu'il avait. En 1991, bien sûr, le Dastour Kotwal et un savant américain, Boyd, on fait une analyse du yasna, mais c'est dans la perspective du culte d'aujourd'hui. Bien entendu, dans la mesure où le yasna est constitué et sert au rite d'aujourd'hui, on peut, Kotwal peut parfaitement, légitimement, nous présenter le sens que Louis, prêtre zoroastrien, dans la pratique rituelle d'aujourd'hui, il accorde à ce texte. C'est ce qu'il a fait. Mais la pratique d'aujourd'hui et entre la pratique d'aujourd'hui et la pratique de ceux qui ont aménagé l'Yasna, il y a peut-être 3 millénaires. Donc les choses, quand vous en conviendrez, ont bien changé. Hein. Et notre problème, c'est d'essayer de savoir, essayer peut-être de déterminer le sens du Yasna. Bon, vous le savez, nous l'avons fait ensemble. Nous l'avons fait ensemble depuis quelques années, je dirais depuis l'année académique 2005-2006, bien sûr, et puis nous avons arrêté cela il y a 3 ans. Le résultat des études que je vous ai exposées durant ces années figure dans les 5 volumes des études Avestiques et Masdéennes. Le premier est paru en 2006 et le dernier en collaboration avec Céline Redard cette année même. Tout l'Yasna a été passé en vue. Je ne prétends pas que cette analyse-là, bien sûr, soit définitive. Hein. C'est un tâtonnement. C'est la première fois qu'un philologue de l'Avestique s'est livré à cet exercice, pas essayer de voir à quoi correspond, à quoi correspondait dans l'esprit même de ceux qui l'ont assemblé la liturgie du Yasna. Alors, si vous voulez bien, on va regarder ça ensemble, on va résumer la situation. Vous avez, je crois, un exemplier qui vous donne, qui est sous-intitulé « Le Yasna a un sens ». Et alors, nous allons voir que le Yasna est organisé autour d'un noyau qui est très consciemment considéré comme la reprise d'un texte vénérable et ancien, dont la langue, pour nous linguistes, pas, apparaît clairement comme beaucoup plus archaïque que le reste du livre. C'est ce qui figure entre les 2 barres. Il s'agit de ce que nous appelons, nous, l'Avesta ancien, hein, dont vous avez la composition, les formules d'encadrement, hein, Yasna 27.13, Yasna 54.1. Nous avons les gatha, ou textes en vers, les chants en vers, et intercalés entre elles, le Yasna Haptankaiti, qui est un texte en prose, qui signifie le sacrifice en 7 chapitres, et qui est répété, bon, il figure entre la première et la deuxième gatha, il est répété entre la 4e et la 5e. Alors, selon l'Avesta lui-même, ce noyau ancien comporterait un 3e volet, c'est le texte appelé Fusho Mantra. Il n'est pas en vieil avestique à proprement parler, il n'est pas non plus en avestique récent, nous y reviendrons. C'est un texte visiblement ancien, on pourrait dire de l'avestique récent archaïque, provisoirement. C'est le Yasna 58. Voilà donc le noyau ancien autour duquel tout le texte du récitatif de la liturgie longue est organisé. Alors, Le reste, les parties en avestique récent à proprement parler, donc, qui vont du Yasna 1, le premier chapitre, au Yasna 27, et sont des chapitres de préambule. C'est l'introduction au sacrifice. Les chapitres qui suivent le Shusho Mantra, donc du Yasna 59 au Yasna 72, sont des chapitres de sortie du sacrifice. Il y a donc autour d'un noyau central une partie introductive, une partie conclusive, ce qui n'est pas très original de le trouver, mais nous pouvons voir comment les choses se déroulent. Il y a d'abord, pour les premiers chapitres, Yasna 1, Yasna 2, mais en réalité avec des variations de module verbal jusqu'au Yasna 7, l'annonce du sacrifice. Le verbe qui annonce le sacrifice est Nivaidayemi, Nivaidayemi que l'on trouve dans le premier chapitre. Donc, on annonce le sacrifice et on annonce le ratu. C'est un terme important, nous allons y revenir, le ratu, c'est-à-dire le temps rituel pour lequel il est prévu. Pour lequel il est prévu. Le deuxième chapitre litanique, là, s'il y a un petit problème linguistique, l'expression verbale « ayese yeshti » est un peu obscure, ce n'est pas notre but de la commenter ici. Mais l'intérêt de ce deuxième chapitre, c'est d'assortir au choix du ratu le barsman. Là, le barsman, même si nous n'avons pas une étymologie absolument assurée du mot, nous savons très bien ce que c'est parce que c'est quelque chose de concret. C'est le faisceau de baguettes que l'on voit aussi dans la documentation achéménide, vous avez vu ça il y a 3 semaines, hein, que l'on voit les sacrifiants tenir en main lors du sacrifice. Donc le barsman est le premier élément concret du sacrifice qui soit mentionné. Alors dans les chapitres 8 à 13, les chapitres 8 à 13 sont des chapitres de mise en condition du corps sacerdotal. Les prêtres qui vont accomplir le sacrifice doivent façonner leur personnalité sacrificielle. Alors tout cela a un certain nombre d'opérations sont requises. Nephréonce, le grand éloge du Hauma, le Hauma n'est pas pressuré dans le rite, c'est un texte qui décrit un pressurage, mais dans le rite d'aujourd'hui, il n'y a pas de pressurage à ce moment-là. Bon. Mais en tout cas, l'importance de ce chapitre, c'est la première opération d'entrée dans le sacrifice. Les prêtres vont boire 2 gorgées de Hauma. Donc, ils absorbent du Hauma. À la suite de quoi, ça apparaît à la suite de l'ingestion, ils donnent leur corps et une part de leur âme mortelle, le Rushtana. Donc, il y a auto-immolation symbolique des prêtres. Auto-immolation symbolique des prêtres. Ce sont des morts qui vont accomplir, qui vont sacrifier, hein, du point de vue technique et du point de vue symbolique. Et à l'auto, c'est la deuxième opération. Alors, le choix de la cible sacrificielle, le Yasna 12, qui sera le bénéficiaire du sacrifice? Il semble y avoir plusieurs choix, d'ailleurs, mais le texte le plus important, c'est celui de la cible sacrificielle, où le prêtre se choisit, le terme vous est donné, hein, pour cela qu'il vous est donné, il se choisit en tant que Mazdayasna, c'est-à-dire quelqu'un qui consacre son sacrifice au dieu Ahura Mazda. Donc le choix de la cible sacrificielle est Ahura Mazda. Et le texte se termine par une formule dite astouillé, c'est-à-dire je salue, parce qu'elle vient devant moi, je salue en face, la Daina. Donc, s'il a abandonné l'une de ses âmes, il en acquiert une. Et cette âme, c'est la Daina. Je vais revenir sur ces mots un instant parce que je voudrais faire un petit commentaire. Mais pour l'instant, c'est la structure qui m'intéresse. Alors, donc, après ces opérations, boire le Hauma, s'auto-immoler, faire le choix de la cible sacrificielle, recevoir sa Daina, le prêtre est apte au sacrifice. Il est apte au sacrifice. Il a acquis sa personnalité sacrificielle. Et dès lors, dans les chapitres 14 à 15, il va, par la formule en vie, ça, et dire, voilà, je suis prêt. Hein, je suis parfaitement en ordre de marche. Hein, je suis prêt. Et par la formule Asbaya, il lance l'invitation solennelle au sacrifice, aux divinités. C'est les invités à venir, n'est-ce pas ? Donc, les opérations préliminaires suivent cet ordre-là. Et ce qui suit est très clair, c'est une liste nominale. Voilà quels sont les dieux admis. Voilà les dieux que nous invitons. Oui, la cible sacrificielle est bien sûr Ahura Mazda. Il est le premier de la liste nominale, mais il y a une série d'autres. N'oublions jamais que la liste est ouverte, et même elle est terriblement ouverte, vous savez, parce que s'il n'y avait que l'Yasna 16, nous avons les divinités usuelles de la Vesta. Mais dans l'Yasna 17, et dans l'addition du Vispered 7, il y a des personnalités divines dont on n'entend parler nulle part ailleurs. Donc, il y a une liste terriblement élargie. Hein. Ensuite, dans les chapitres 18 à 21, c'est la justification de l'ordre de la liste. Pourquoi les dieux dans cet ordre-là ? Eh bien, c'est leur ordre de création. C'est ce que justifie, c'est le justificatif invoqué. Hein, c'est ce que le texte justifie leur préséance, faut-il parler de préséance, mais en tout cas leur, l'ordre dans lequel ils sont mentionnés par le fait que, par l'ordre des créations. Alors, les dieux de la première série hein, sont les dieux créés en premier. Les dieux créés en premier. Nous avons vu cela à l'époque en détail. Et les chapitres qui suivent avant l'Avesta ancien, qui constituera le cœur même du sacrifice, sont une duplication du pressurage. Ça, c'est la partie mobile, vous savez, sans doute facultative, parce qu'il peut y avoir un seul pressurage, probablement, il peut y en avoir trois, il peut y en avoir quatre. Donc, c'est une partie qu'il était probablement possible de déplacer à l'intérieur du récitatif. Dans les manuscrits que nous possédons, elle se trouve ici, mais là, c'est le ventre mou de notre texte, n'est-ce pas ? C'est ici que des modifications textuelles peut-être considérables pouvaient intervenir. Enfin, cela nous apparaît de cette façon-là aujourd'hui. Bien, alors, récitation de l'Avesta ancien jusqu'au Yasna 34, et à partir du Yasna 34, la récitation, aujourd'hui encore, mais ça doit traduire un fait ancien, se fait statique jusqu'au Yasna 58. Or, le Yasna 58, qui n'est donc pas un texte en vieille avestique, le sens nous est apparu aujourd'hui, et je m'expliquerai bientôt là-dessus, c'est le moment où le feu est désacralisé. Le feu rituel est désacralisé. Il est rendu à son état de feu domestique. Dès lors, il apparaît assez clairement ce qui a pu se passer dans notre texte, n'est-ce pas ? Nous avons un rite jusqu'au Yasna 58 qui est tout à fait ce que classique, n'est-ce pas ? Car il est centré sur deux offrandes successives. La première, il en est fait mention à partir du Yasna 9 dans l'introduction. Et on en fait usage pour la dernière fois dans le Yasna 33, donc tout juste avant ce Yasna 34 où commence la récitation statique. C'est l'offrande de Hauma. C'est l'offrande de Hauma. Il y aura peut-être une, deux, trois, peut-être quatre offrandes de Hauma selon les variantes rituelles. Première offrande classique. Deuxième offrande à partir du Yasna 34 jusqu'au Yasna 58 pendant la récitation statique, c'est l'offrande de chair dans le feu rituel. Le feu sera désacralisé dès lors que la chair ou la graisse qui a été déposée soit entièrement calcinée. Donc, deuxième partie, l'offrande carnée. Ce sont les deux offrandes traditionnelles d'un bon vieux sacrifice indo-iranien, le hauma, hein, et la vache, hein, dont il est si souvent question. Alors, ce qui suit, la fin, après la désacralisation du feu, les chapitres en avestique récents de sortie du sacrifice. Il y a un texte intéressant, sans doute très ancien, c'est la Dharma Afriti, qui correspond à l'échange des récompenses. Ce que les prêtres ont gagné par le sacrifice, ils le donnent, ils le transfèrent au commanditaire du sacrifice, à celui qui a payé le sacrifice. Et le commanditaire paye le prêtre, lui donne sa récompense à lui, qui est d'ordre financier, tout au moins matériel. C'est le transfert des bénéfices du sacrifice. Et cette cette opération correspond en réalité à un devoir d'acquittement. C'est la démission du corps sacerdotal de son exercice sacrificiel. Et il y aura deux opérations finales. C'est un hommage au feu que l'on va éteindre, et un hommage aux eaux que l'on va libérer, que l'on va rendre au courant des rivières, hein, après l'usage rituel. Et le Yasna 72, d'ailleurs, c'est le renvoi général, hein, de tous les acteurs du sacrifice, prêtres, commanditaires, dieux, divinités aussi. Donc ceci est la sortie du sacrifice comme tel. Voilà le sens général que je pense pouvoir attribuer au Yasna et qui était, dans l'hypothèse que je formule, la vision théorique qu'avaient de ce récitatif ceux qui l'ont assemblé. Mais je voudrais maintenant faire une petite, ce n'est pas un excursus à proprement parler, mais j'aimerais peut-être apporter quelques précisions sur un ou l'autre point de méthode. J'avais en 1989, dans les leçons que j'étais venu faire ici, et j'ai vu que mon collègue Philippe Heuss a lui aussi beaucoup insisté là-dessus dans son livre, dans son petit livre sur l'Iran ancien, n'est-ce pas ? C'est qu'une des difficultés à laquelle nous nous heurtons pour comprendre l'Avesta, c'est la question sémantique. C'est la question, c'est que veut dire un mot ? Vous avez ici, surtout dans la partie introductive, pour la partie introductive, j'en ai fait figurer quelques-uns volontairement pour m'expliquer. C'est évident qu'on ne peut rien comprendre à la structure du yasna et aux opérations qu'il est censé accomplir si on ne comprend pas bien le sens de certains mots. Or, je pense que il y a une ce n'est pas par coup de génie, par coup d'éclat, par devinette que l'on va résoudre le problème du sens des mots. La proposition que je me suis toujours faite pour tenter de comprendre ce qu'un mot avestique signifie, c'est de coller le plus possible, non pas à son étymologie, je récuse le terme d'étymologie pour cela, mais à la formation qu'il représente. Cela n'a rien à voir avec une étymologie. Et lorsque, par exemple, Albert, je m'entends très bien avec lui, vous le connaissez bien, Albert de Jong, qui était là il y a 3 semaines, me reproche assez fréquemment, vous faites de l'étymologie. Non, ce n'est pas de l'étymologie, n'est-ce pas ? Un mot indo-iranien est en principe, en général, lisible. C'est-à-dire que l'on peut isoler ces 3 éléments constitutifs. Sa racine, son suffixe et sa désinence. Bon, sa désinence, ça traduit son statut syntaxique dans une phrase. Mais pour déterminer son sens, on identifie la racine et le suffixe. Or, une fois que cette racine est identifiée, ce n'est pas faire une étymologie, n'est-ce pas ? C'est une simple analyse synchronique d'un mot tel qu'il apparaît dans un texte. Il n'y a rien d'historique dans cette démarche. Dès lors, le mot d'étymologie me paraît impropre. Alors, il me semble que la prudence la plus élémentaire dans une situation comme celle-ci, c'est de maintenir le sens des mots le plus près possible du sens de la racine dont ils dérivent et de la perspective vis-à-vis de ce sens où l'inscrit son suffixe. Alors, nous avons ici quelques mots simples. Hein. C'est le mot Ratu. Hein, le mot Ratu. Ben, le mot indien Urtu existe. N'est-ce pas, c'est la période du temps. Alors, si l'on introduit ici la notion du jugement, je ne sais plus rien faire avec ce texte. N'est-ce pas, je ne vois plus le sens du texte, n'est-ce pas? Tandis que nous sommes devant un sacrifice dont il faut d'abord faire le choix, et on nous le dit très clairement, entre un temps rituel donné. Temps rituel, il y en a cinq. Hein. Le matin, le midi, l'après-midi, la première partie de la nuit, la seconde partie de la nuit. Qu'est-ce que c'est que cela, sinon des périodes de la journée ? Une chose qui correspond parfaitement au sens du mot indien « urtu » et au sens du mot iranien « ratu ». De même, j'ai fait figurer expressément « daina », n'est-ce pas, dont on a... Ici, nous n'avons pas d'équivalent indien, mais nous savons très bien comment le mot est formé. Il est formé sur la racine « di » et le suffixe « ana ». C'est donc la vision. Si vous traduisez par religion, vous donnez un coup de pouce sémantique, n'est-ce pas, et le sens du texte n'apparaît plus. C'est une âme qui consiste en une capacité de vision. À l'époque que nous envisageons, à partir de 1989, c'était une chose déjà fort bien établie après l'étude qu'en avait faite un certain Thomas Lankarani. Donc, il avait examiné les attestations de Daina dans l'Avesta et qui avait, c'est une thèse de doctorat défendue à Hambourg, et qui avait conclu très justement que le mot Daina en avestique ne signifiait pas la religion, mais qu'il signifiait, désignait une variété d'âme. Une variété d'âme qui consistait en une capacité de vision. De même, le mot Saushant, hein. Le mot Saushant, c'est un autre cas. Nous savons très bien ce qu'il veut dire. Hein, c'est celui qui va gonfler, comme nous en avons encore parlé la dernière fois, lors des derniers cours de l'an dernier et de l'année précédente. Mais à partir de là, bien sûr, on ne sait pas de quoi il s'agit. Mais la place où le mot intervient dans le yasna considéré comme un ensemble cohérent et concerté est très claire. Est désigné comme Saushant le prêtre, une fois qu'il a accompli toutes les opérations qui font de lui une sorte de personnalité sacrée, n'est-ce pas ? Le prêtre qui a bu le soma, fait le choix sacrificiel, etc., eh bien, il devient Saushant. Et nous allons redire un mot de ce sens immédiatement pour la fin de cette leçon, hein, pour envisager le dernier aspect que nous inspire cette conception signifiante du yasna. Si le yasna a un sens, cela introduit dans le jeu aussi une nouvelle problématique. Cela a un corollaire. Pas ? Et c'est un corollaire qui est apparu dès 2006. Quelqu'un que vous connaissez bien et dont... la perte est extrêmement, extrêmement dommageable pour notre science, c'est Xavier Tremblay. Xavier Tremblay m'a envoyé en 2005 une lettre qui était en fait un gros dossier d'une vingtaine de pages serrées pour établir un certain nombre de parallèles entre le yasna conçu, comme je viens de vous l'exposer, et le sacrifice brahmanique. La question qui se posait était bien sûr celle-ci, hein, on peut se poser, mais attends, y a-t-il un sacrifice indo-iranien ? Y a-t-il un sacrifice indo-iranien ? Ben oui. Hein. Si le yasna est ancien et a un sens, il y a un sacrifice indo-iranien dont nous connaissons deux variantes. Deux variantes sont documentées. La variante brahmanique, que les indianistes étudient depuis des décennies sans se poser de questions vaines, n'est-ce pas ? Et le sacrifice avestique, hein, dont les iranistes, jusqu'à tout récemment, se sont efforcés de nier l'existence. Ben, puisque la doctrine était que la religion de l'Avesta est emphatically, disait Niuli, anti-sacrificielle et anti-ritualiste. Ben non, c'est le contraire. il y a une philosophie et une pratique du sacrifice qui rappelle à certains égards le sacrifice brahmanique. Le dossier de Tremblay visait d'ailleurs à établir une série de concordances. Je ne sais pas si, vu la disparition de son auteur, on peut vraiment, je vais dire, faire usage de ce matériel, mais quelque chose en tient lieu. Xavier Tremblay a présenté un séminaire, je l'ai intégré à mon séminaire, c'était en janvier 2007, et le résumé de ce séminaire dans l'annuaire donne un aperçu, un résumé très développé malgré tout par Tremblay lui-même de ce que des points de comparaison que nous pouvons faire entre les deux variantes indo-iraniennes du sacrifice que nous connaissons. Elles figurent dans votre exemplier. Je les ai réduites à peu de choses. Je m'en suis tenu aux faits non hypothétiques, aux faits qui, évidemment, ne peuvent être que constatés à l'évidence. Bon. D'abord, vous me direz, c'est très général, oui, mais c'est le point important, c'est le centre d'un sacrifice indo-iranien, les deux offrandes. Le haoma d'abord, le soma indien, la victime animale ensuite, l'offrande carnée. Ça, c'est la clé même du sacrifice, c'est le centre des opérations à l'intérieur. Mais regardez le reste aussi, n'est-ce pas ? Nivaidayimi, l'annonce du sacrifice. En védique, la nivit, l'annonce du sacrifice. Nivaidayimi, le seul mot, le seul dérivé de ce nivit que nous connaissions, et les listes d'annonces du sacrifice qui se font en prose, selon la théorie, et qui existent déjà à l'époque du Rig Veda. Nous n'en avons pas celle de l'époque du Rig Veda, mais le Rig Veda parle des nivides. Donc, une ancienne manifestation, du préliminaire sacrificiel absolu. Ensuite, le Yasnawit, avant que commencent les opérations somiques, c'est les prêtres avestiques sont appelés à manger. Y a-t-il un repas du futur corps sacerdotal avant le début des opérations ? Comme dans le rituel brahmanique. Ça semble être le reflet de cela. Vous voyez, je l'ai mis avec un point d'interrogation, parce que c'est une question que l'on peut se poser. Mais malgré tout, c'est quaratam miasdam, dit le texte. Manger cette nourriture solide. Bon, c'est le moment du repas dans le rite brahmanique. Le fravarané, je choisis, préverbe fra, verbe var. Une opération identique a lieu dans le rituel brahmanique, c'est le pravara. Le pravara, c'est le choix multiforme, n'est-ce pas ? Le choix du corps sacerdotal, le choix de la divinité cible, mais aussi le choix de la victime sacrificielle. Or, le saushant, justement ce prêtre, qui vient s'inscrire entre tous les sacrifices qui ont eu lieu avant lui, et qui préfigure le sacrifice final de quelqu'un qui s'appellera lui aussi Saushyant, il s'intègre ainsi à une lignée, la lignée des sacrifiants, depuis le premier jusqu'à celui qui sera le dernier. Et le pravara, autant qu'il signifie le choix, désigne aussi cette lignée continuelle des opérateurs sacrificiels. Alors, les opérations qui consistent à dire « je suis prêt, visaï, puis j'invite », etc., le sacrifice commence, porte un nom qui n'est pas, en védique, étymologiquement apparenté, c'est un autre verbe, c'est l'ayajéa, n'est-ce pas, l'ayajéa, où les prêtres font très exactement la même chose, la concordance est d'ordre sémantique ici, ils se déclarent prêts à agir et ils invitent officiellement les divinités, ils lancent les opérations. C'est le début des opérations sacrificielles. Alors, il est aussi, lorsqu'il y a à la fin un hommage au feu et aux eaux, nous voyons la libation au feu dans le rituel pour terminer la dernière journée sacrificielle du rite brahmanique, libation au feu et aux eaux stagnantes. Et, l'analogie va dans le détail, puisque cet hommage aux eaux dans l'Avesta comporte une exhortation où on leur demande de rester tranquilles. Les eaux stagnantes du côté védique, les eaux qui doivent demeurer tranquilles tant que le sacrifice n'est pas terminé dans l'Avesta. Alors, bien sûr, je l'ai mis aussi avec un point d'interrogation, est-ce que cet hommage aux eaux comportait un bain le bain final des officiants, comme dans le rite védique, c'est possible, mais là, ce sont des opérations concrètes que l'Avesta n'a pas pour coutume de mentionner. Alors, je voudrais bien aussi, maintenant, je terminerai là-dessus, je voudrais bien que vous voyez combien cela change profondément une problématique. Beaucoup d'entre vous ont assisté au colloque il y a 3 semaines. Lorsque nous nous représentons pour les Perses qui vivent dans le contexte du Proche-Orient ancien et la mythe mésopotamien, hébreu aussi, n'est-ce pas ? Ces Indo-Iraniens, comment allons-nous les imaginer du point de vue religieux ? Il y a 2 façons de le faire. Ou bien ils ne connaissent pas la religion de l'Avesta encore, et alors ils n'ont rien, on va penser qu'ils n'ont rien de spécifique à proposer en matière religieuse et qu'ils sont par conséquent ouverts à toutes les influences du Proche-Orient, hein, mésopotamienne, élamite, hébraïque, bien sûr. L'Iran et Israël, combien de fois ça traîne dans tous les livres. Imaginons le contraire, ils connaissent l'Avesta. Ils sont alors anti-sacrificiels et anti-ritualistes, comme l'on disait. C'est-à-dire que à quoi rime dès lors pas toutes ces représentations de sacrifices sanglants sur les sceaux, etc. Pourquoi rend-il hommage à telle quantité de dieux dont certains ne figurent même pas dans l'Avesta ? Je sens très bien encore mes collègues non-iranistes, les assyriologues, les élamologues, etc., ne sont pas encore bien dégagés de cette vision. Mais voyez maintenant comment nous pouvons les considérer. Indépendamment du problème avestique. Enfin, ces gens qui sont au contact des civilisations du Proche-Orient ancien, quelle culture religieuse ont-ils en face de ça ? Eh bien, ils ont une variante du sacrifice brahmanique. Enfin, du sacrifice brahmanique. Et ça, c'est tout autre chose. Ils ont une philosophie et une pratique du sacrifice qui est pratiquement intraduisible dans le contexte du Proche-Orient. Ça pose un problème, évidemment, de contact entre les civilisations. Comment est-ce que ça peut se vivre ? C'est là notre problème, n'est-ce pas ? C'est que nous n'avons pas la perception parfaite de la situation que cela a pu induire. Et ça, la pratique de la Vesta ou non, ça importe peu, n'est-ce pas ? Mais nous savons au moins que le monde indo-iranien dans son ensemble, sur une très longue période, n'a fait que produire des variations d'un certain type de spéculation liturgique et rituelle. Et cela, je voudrais aussi, je terminerai vraiment par là, il y a une autre réflexion que ceci m'inspire, elle est un peu désordonnée, mais enfin, nous sommes dans les confins maintenant des nouveautés, et il faut aussi un peu faire place aux pensées que l'on peut entretenir. Nous avons un petit problème de chronologie, n'est-ce pas ? Car le sacrifice brahmanique et le sacrifice avestique récent, le yasna, ce ne sont pas les premières attestations que nous avons de la religion ni védique ni avestique. Avant le sacrifice avestique récent, il y a l'Avesta ancien comme tel. Il nous échappe dans une certaine mesure, enfin il est censé nous échapper. Et nous avons du côté indien les hymnes du Rig Veda, hymne séparé, dont l'insertion dans le cadre d'une cérémonie n'est pas apparente. C'est vrai, tandis que les 2 expressions rituelles principales, elles sont secondes. Elles sont secondes, elles viennent ensuite. Donc, il faut croire que quelque chose était en germe. Sans doute, sans aucun doute, et je le conclurai, pour le Rig Veda, je laisserai le travail, bien sûr, à mes collègues indianistes, Mais depuis 2 ans, nous avons essayé de nous pencher sur l'aspect liturgique des gathas. Nous l'avons fait pendant 2 ans et il me semble que nous ne l'avons pas fait en vain, puisque nous avons pu voir qu'en réalité, la gatha Runavaiti, en tout cas, nous avons pris celle-là, c'est elle qui nous donne le travail le plus facile, parce qu'elle est plus longue. Donc, on voit mieux, nous pouvons l'observer pendant plus longtemps. Bien, la gatha Runavaiti, au fond, est fondée sur un cursus liturgique qui n'est simplement plus court, mais qui est identique dans une grande mesure, à celui du yasna. Le yasna récent, tel qu'il nous apparaît, est une amplification du rite gathique. Donc, du côté iranien, au moins, le problème chronologique ne se pose pas. Nous pouvons voir qu'il est sans doute secondaire, car cette philosophie du rituel, elle est présente dès le début. Du côté indien, il faudrait... nous avons le problème du morcellement rigvédique, mais c'est une autre question. Alors, voilà, j'espère avoir montré que nous résolvons peut-être des problèmes, nous en créons de nouveaux aussi, hein, mais aussi nous créons de nouvelles manières de poser les questions. C'est peut-être finalement notre métier. Alors, merci beaucoup.